carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Monel Ayot.
Nous recevons aujourd'hui Trémois au carrefour des arts. Trémois est académicien de l'Académie des Beaux-Arts depuis 1978. On connaît bien son œuvre, on a l'impression de la connaître d'une façon facile puisque c'est l'homme qui a inventé le trait simple, et on a pu dire de lui qu'il était si simple qu'il était très ambigu. Nous sommes absolument ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour Trémois.
Bonjour Monel, d'abord le prénom, ensuite parce que nous nous connaissons depuis longtemps, et ensuite parce que vous êtes dans toutes mes mythologies.
Alors on a sous-titré l'émission « Très très moi ».
Très bien.
Qu'est-ce que ça vous suggère, « Très très moi » ?
Oui, ça va, c'est comme un peu, comme j'ai fait beaucoup de singes, je disais des singes, c'est un peu vous, c'est un peu les autres, et c'est un peu moi aussi. Mais, vous savez, déjà, les gens vous disent « c'est difficile de se faire un nom ». Eh bien, si vous m'aviez posé la question « quel est le peintre pour vous le plus extraordinaire, le plus génial du monde ?»
Quel est le peintre pour vous le plus génial du monde ?
Ah, ben, je vais vous répondre. Il n'a pas de nom. Il vivait il y a 30 000 ans. Et
c'est Lascaux.
Personne ne l'a connu, c'est Lascaux.
Vous avez dit, le Burin m'a appris la simplicité est terrible.
Mais oui, c'est terrible, parce qu'on ne peut pas tricher. Vous me parliez du peintre le plus extraordinaire qui n'a pas de nom. Il s'exprimait simplement, ce petit silex.
Oui.
Et un grand archéologue de là-bas, qui habite du reste sur le site de Lascaux, me l'a donné, et c'est un des plus beaux cadeaux qu'il m'a fait et que je garde précieusement.
Est-ce que vous avez déjà gravé avec ?
J'ai voulu, mais il faudrait que je grave dans la pierre. Et comment expliquer qu'avec un simple burin, cet homme de Lascaux a créé la chose la plus incompréhensible de l'histoire de l'art. On ne comprend pas, et c'est gravé. C'est drôle parce que dans les dictionnaires, moi j'ai un vieux dictionnaire qui a 30-40 ans, il y a marqué « gravure préhistorique ». Et maintenant, dans les dictionnaires de maintenant, il y a marqué « peinture ». Donc c'est à la fois peinture, à la fois...
Est-ce qu'il y a une différence pour vous de concept entre la peinture ?
Il n'y a aucune différence. Qu'en pensez-vous ?
Mais moi, je vais citer Catherine Trémois. Catherine dit que vous êtes un homme pressé et que donc vous gravez parce que la peinture vous ennuie, ça ne va pas assez vite.
Oui, alors pressé et stressé aussi. Ah ben oui, la
mais,
peinture.
Mais précis. Vous vous rendez compte. Mais précis.
Vous vous rendez compte. À l'école des Beaux-Arts, jeune et très intimidée, je me disais, mais mon Dieu, je n'aimais que dessiner depuis l'âge où on balbutie.
Mais vous avez dit ça, vous avez dit, je sais pourquoi j'écris, je ne sais pas pourquoi je dessine.
Oui, c'est vrai. Même à mon âge, je ne sais toujours pas.
Mais ce n'est pas une question d'âge, est-ce que l'âge compte ?
Je ne sais pas.
On a dit de vous que votre art était...
Ah oui, vous me disiez pourquoi vous n'aimez pas tellement la peinture. Eh bien si, parce qu'entre parenthèses, à l'école des Beaux-Arts, sans un sou, dans une période financière extrêmement difficile, je suis rentré aux Beaux-Arts. Et là, je voyais tous mes amis, tous mes camarades d'école qui faisaient de la peinture à l'huile. Alors, j'ai fait un peu comme eux, mais ça me désespérait. Et puis d'abord, la peinture à l'huile, ça pue, ça colle, ça jaunit, c'est très long. À une époque de la vitesse, et je revenais toujours au dessin. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire à cette école des Beaux-Arts pour essayer en plus d'aller plus loin dans mes retranchements et le trait. Le trait, ça m'excitait beaucoup depuis toujours. Alors j'ai pris du burin. Alors le burin, ça allait vite. Il n'y a pas de reprise.
Il n'y a pas de repentir, donc il faut...
Il n'y a pas de repentir. C'est énorme.
Pour réussir tout de suite, c'est quand même une discipline terrible.
Le repentir est une chose que... Il y a beaucoup de confrères actuels contemporain qui joue sur le repentir. Et par exemple, dans la peinture d'Extrême-Orient, du Japon en particulier, de Chine,
ça n'existe pas. On reparlera du Japon tout à l'heure longuement.
Ah oui, oui, vous connaissez mon péché mignon de collectionner les...
Bon, je ne savais pas que vous n'aviez qu'un péché mignon. Bien. Je voulais vous demander si vous aviez été attiré par la gravure parce que vous aviez un physique de médaille.
Oui, mais il y a l'envers de la médaille.
Ah, on ne l'a pas vu, là. On ne l'a pas vu.
Ça, je vous dirais.
Est-ce que c'est ce physique-là aussi qui a tourné votre œuvre vers un érotisme évident?
Oui. Mais vous savez, dans toute œuvre d'un peintre, d'un sculpteur, d'un artiste, il y a une grande part d'érotisme aussi. Même. Regardez, un des plus célèbres académiciens était un homme très respectueux, d'allure, de pensée, mais qui était un érotique énorme. Et de faire à 82 ans le tableau le plus érotique du Louvre...
À qui pensez-vous ?
À Monsieur Ingres. Le tableau le plus érotique, c'est le bain turc, 82 ans. Et ce n'est pas l'œuvre d'un gâteux libidineux.
Mais est-ce que ce n'est pas un érotisme daté ?
Pas du tout, il est tout à fait contemporain. De faire le tableau le plus érotique du Louvre à 82 ans, il faut le faire.
Oui, ça...
Et vous savez, entre Van Gogh et Monsieur Jean-Dominique Ingres de l'Académie, quel est le plus fou ? Il y en a un qui s'est coupé l'oreille dans un accès de folie, mais le plus fou, je trouve, c'est Ingres.
Ingres, est-ce que vous ne pensez
parce
pas qu'il représente...
Parce qu'il a un érotisme qui est beaucoup plus difficile à faire.
Mais c'est-à-dire qu'on peut se dire, ce sont des corps de femmes qui sont de leur temps.
La chose la plus extraordinaire, c'est d'être justement impersonnel. Et je trouve que, par exemple, un des plus grands peintres de l'humanité, c'est M. Velázquez, et il arrive à être impersonnel, c'est-à-dire de ne pas prendre part, de ne pas vouloir absolument dire « je suis Velázquez, il faut que je mette ma personnalité ». Il est au-dessus.
Mais est-ce que dans la création, on se pose ce genre de questions où c'est une expression qui est plus forte que vous et de toute façon, ce que vous créez, est-ce que vous le maîtrisez au moment de la création ?
Vous savez, attention, si vous m'avez parlé tout à l'heure du burin, eh ben c'est un outil qui justement, par sa précision, par son côté chirurgical, parce que il faut rentrer dans le cuivre d'une façon presque comme un chirurgien, il n'a pas le droit à l'erreur. Si un chirurgien fait une erreur, c'est dramatique. Et dans un burin, c'est aussi dramatique parce que il n'y a pas de repentir, vous avez dit. Et si vous faites un trait de traviole, de l'effacer, c'est déjà toute une affaire énorme. Vous n'avez pas droit tellement à l'erreur. Un peu comme quelqu'un qui a un sabre japonais. Et vous rentrez dans le cuivre. Et à ce moment-là, il y a une tension et qui est en tout cas merveilleuse pour certains artistes. Et c'est cette espèce de tension. Si vous faites un trait, j'adore faire, par exemple, des grands burins. Si vous commencez...
Les grands in-folio, on reparlera des grands livres d'artistes que vous avez faits.
Donc, il y a des grandes plaques de cuivre. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas vous amuser à faire comme avec l'eau forte, un peu n'importe quoi, des matières et tout ça. Il faut que vous alliez dans cette espèce de plaque de cuivre qui est longue. Et vous faites des traits, ce que l'on appelle des traits de longue haleine. C'est joli. C'est pas de moi. Je crois que ce sont des Japonais qui disaient ça. C'est-à-dire que quand vous prenez votre burin, il ne gravait pas au burin, c'est dans des bois. Vous prenez votre respiration et vous faites votre trait d'un seul coup. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez jusqu'au bout, vous creusez votre matin. Si vous avez votre respiration qui vient, votre trait...
C'est comme dans la calligraphie, en fait. C'est un grand souffle.
C'est comme ?
Dans la calligraphie, un grand souffle.
Exactement. Mais là, vous pouvez faire un peu n'importe quoi parce que vous barrez, etc. Et puis ça devient justement de la littérature.
Sur cette assertion, reprenons notre souffle. On va aller dans un pays qui est cher à votre cœur et marquer une courte pause avec Tomoe Ryu, Yukata Daiko et leurs percussions. nous retrouvons Trémoi dans l'émission Carrefour des Arts pour parler du Japon. Vous avez, en 1982, eu une rétrospective au musée Isetan à Tokyo. Après, vous avez eu une exposition itinérante. Vous êtes un grand collectionneur d'art japonais. D'ailleurs, votre collection se trouve aujourd'hui au musée Guimet.
Pas toute la collection, quelques pièces seulement, évidemment.
Alors, est-ce que vous nous parlez de cette fascination du Japon et de nous parler de votre collection ? Est-ce que c'est une compilation ?
C'est pas tellement une collection que je voulais faire, mais puis en plus j'avais des moyens épouvantablement réduits. Mais peut-être, si on me présente, je sais pas quoi, une centaine d'œuvres du Japon, des kakemono, etc., des sculptures, j'irai directement sur les choses que je veux capter, que j'aime. C'est peut-être cette captation qui m'a fait, sans moyens, aimer terriblement certaines œuvres et me dire « je vais tâcher de les avoir pour moi ».
Donc ça, c'est la fascination du collectionneur. Posséder, c'est posséder ou c'est...
C'est une chose curieuse parce que, oui, peut-être, si par exemple, aujourd'hui, je continuais à essayer d'avoir des œuvres du Japon importantes, je sais qu'il y a un paravent dans Paris, qui appartient à une dame âgée, et ce paravent m'excite énormément. Je ne veux pas son décès, cette pauvre femme, mais pas du tout, ne pensez pas à ça, mais malgré tout. Mais malheureusement, c'est terminé pour moi. Vous savez, vous qui êtes très littéraire et qui êtes très calé, il y a Monsieur Claudel, avec qui j'ai travaillé du reste, a dit un jour, il est un temps de prendre... et un temps de laisser prendre. Et maintenant, je dois dire que les œuvres du Japon que j'ai eues, que j'ai possédées, et qui étaient très belles, c'est une des grandes collections d'art privé en Europe, eh bien, je m'en suis séparé, comme ça, du jour au lendemain. Et je dois dire que ça ne m'a pas fait du tout de peine pendant 5-6 jours, peut-être. Il y avait un vide chez moi, mais c'est parti.
Est-ce que vous retournez voir ces objets au musée Guimet ?
Je suis allé une fois, au revoir. Il y a deux choses très importantes. Le musée Guimet voulait m'en acheter d'autres. Mais c'est le musée Fuji à Tokyo qui m'en a acheté pas mal et en Amérique. Mais vous savez, cette collection, il n'y avait pas beaucoup d'œuvres, mais elles étaient, paraît-il, très importantes.
Et c'était dans quelle catégorie d'art japonais ?
C'était des peintures et des sculptures.
Et un peu une correspondance de votre art à vous ?
Non.
Elles vous ont pas inspiré ? C'était une autre chose ?
Non, c'est sur un...
C'est une autre démarche ?
C'est sur un autre plan, si vous voulez. Parce que j'avais voulu vraiment avoir des choses qui me passionnent du Japon. J'aurais une collection d'art érotique du 17e et surtout 19e, avec les Hokusai, avec les Roshige, tout ça, qui ont fait
ça,
des...
Ça, c'est pas la peine. Si vous voulez de l'érotique, vous avez les vôtres.
J'ai beaucoup de choses qui se précipitent au portillon quand vous me dites pourquoi j'ai fait cette collection. Vous savez, un jour, dans ma jeunesse, comme je vous l'ai dit, complètement... ignare. J'ai été considéré par mon papa comme un crétin. Et après, il y a eu des gros événements dans ma propre famille. Et j'étais seul. Je ne faisais rien. Je n'allais pas au lycée, pas encore à l'école des Beaux-Arts. Je me baladais comme ça, sans un sou. Et tout d'un coup, par un jour où il pleuvait à torrent, je vois le musée Guimet, un musée d'art asiatique. Et je me dis, un mardi, c'était gratuit. Et là, je suis tombé dans la salle du Japon. J'ai été assez saisi par un portrait.
Quel âge aviez-vous ?
Difficile de dire. 16, 15, 16, comme ça. Et je rentre là et j'étais saisi par un portrait du... Je ne savais pas du tout l'époque, mais enfin, il était du 16e, qui est en ce moment encore, que j'ai revu avec un émoi terrible. Et je me dis, mais mon Dieu, d'abord il était exposé avec du soleil, complètement fou, dans la rue Copernic, je crois, la rue qui monte sur le côté. Et je me dis, mais comment peut-on mettre une œuvre pareille qui me semblait, j'y connaissais rien, délicate, puisqu'elle était peinte sur soie. Et ce portrait, je me dis, mais c'est pas possible. Comme je voulais inconsciemment être peintre, je me dis, là, il y a tout. Il y a la simplicité, la violence, et il y avait une certaine folie. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Et ça a continué comment? À cette époque-là, vous n'aviez pas l'idée d'acquérir?
Non, pas du tout. Et comment l'aurais-je pu, mon
donc,
Dieu?
Donc, comment ça a continué?
Eh bien, ça a continué. C'était après, il y a eu cette occupation. Les temps étaient très durs, très durs, très durs. Et deux jeunes éditeurs, voilà la divine surprise, sont dit ce type-là, il y avait une petite exposition à l'École des Beaux-Arts, et ce type-là, il dessine pas mal. On va lui faire faire un livre. Ils étaient fous de la chasse à cour. Alors, ils disent, voulez-vous faire un livre sur la chasse à cour? J'y connaissais rien. J'ai dit, oh oui, j'adore. C'était pas vrai du tout. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ils m'ont demandé, c'était un éditeur de Noël, qui est venu à la maison. Alors, j'étais content. Un éditeur vient. L'auteur s'appelait Paul Vialard. Et le livre s'appelait La Grande Meute. Inutile de vous dire que j'ai eu, malgré c'est certainement un très beau roman, mais j'avais du mal à lire parce que, entre parenthèses, ça m'intéressait absolument pas. Mais je me dis, allons-y. Et c'était une occasion de rentrer dans un monde, la gravure. Et faire un grand livre illustré, quel est le jeune complètement dans son petit coin qui n'aurait pas rêvé de faire ça.
Vous avez fait 27 livres de peintres, je les ai comptés.
C'était des grands bouquins.
En général, c'est vous qui choisissez les textes.
Oui.
Je me suis laissé dire que vous n'aimiez pas les poètes à la mode, que vous préfériez la vraie littérature et les vrais mots.
Non, c'était encore mon côté agaçant, c'est-à-dire que justement c'est flatteur pour un artiste de dire je vais faire un livre de Paul Valéry, de Racine.
Beaucoup Monterland, vous avez beaucoup.
Ah oui, mais là c'est autre chose. Je trouvais que c'était plus amusant et plus risqué. Beaucoup plus risqué de choisir d'abord un contemporain, deuxièmement de choisir soi-même son auteur, et puis mettons dans cette dèche dont je vous ai parlé, et ce côté crétin qui n'arrivait pas à passer de cinquième en sixième, qui a redoublé je ne sais pas combien.
comme Guitry.
Oui, c'est très flatteur, mais je ne m'en faisais pas une gloire, hélas. Et je me dis, comment puis-je avoir deux professeurs illustrissimes, de plus, qui m'intéressaient énormément, qui m'intriguaient, sans connaître tellement leurs œuvres. Il y avait deux. Il y avait Rostand, parce que, à cette époque-là, eh ben, Rostand venait en tête, le plus populaire.
Ça a été
par exemple, l'abbé Pierre a été au sommet.
Notoriété, c'était un critère pour vous, ou la valeur intrinsèque du texte, ou la personnalité du personnage?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais Rostand était élu, et je me disais, comment faire un bouquin avec lui? Et j'aime les choses sexuelles, et j'aime l'amour chez les insectes. Je trouve 10 fois plus excitant que l'amour chez les humains. Il y a des positions sexuelles de certains insectes qui sont phénoménales. J'enfonce une porte ouverte. Mais comment rentrer en contact avec ce monsieur dont on dit dans la radio, la télé, qu'il est l'homme le plus célèbre? Eh ben tant pis, je vais y aller. Je savais qu'il habitait Ville-d'Avray. Et me voilà parti avec mon petit carton à dessin avec des enlacements d'insectes. Et ce personnage m'accueille gentiment, adorablement, regarde dessin par dessin et me dit, mais moi tout de suite, je fais un bouquin avec vous. J'ai dit, mais alors il faudrait choisir dans les choses que vous avez faites. Non, je peux écrire sur ces insectes. Et il a fait un texte dans une quinzaine de jours, sans qu'il y ait un contrat, sans savoir qui j'étais. Quel est maintenant l'éditeur qui se lancerait dans une telle aventure?
Eh bien, c'est une question.
Et Monterland, c'était pareil. Et cette simplicité extrême. Oui. Alors, c'est drôle parce que ce sont deux auteurs qui m'ont passionné, qui ont été mes amis intimes. Et ces deux auteurs, l'un était la gauche pure et dure, il allait au mur des fédérés avec un grand chapeau à la Léon Blum, et l'autre était soi-disant homme de droite. Comme quoi ils auraient pu faire tous les deux un programme commun.
Quel joli mot. Trémois, pour aborder un autre sujet, nous allons faire une transition avec Mozart et le Requiem. Prenons notre entretien avec Trémois pour le Carrefour des Arts. Trémois, vous venez de faire une chapelle des corps. J'ai envie de vous demander, où est Dieu pour vous ?
Ça, alors là, si je pouvais vous répondre, j'ai jamais vu Dieu, hein, mais je me suis quand même appliqué, vu peut-être mon âge, mais peut-être aussi parce que, dans le fond, tous les peintres ont eu le désir de faire une chapelle, même Chagall. Et il y a une chapelle de Bernard Buffet qui est très belle du reste. Et je me suis dit, allons-y. Et j'ai commandé des énormes toiles, enfin énormes, toutes proportions gardées, mais de à peu près 7 mètres, 7 mètres 50 de long sur 5 mètres de haut. Et pendant la canicule dernière, oui, c'était effrayant, je me suis lancé dans une chapelle. Et votre question... Comment faire une chapelle maintenant sans tricher ? Et
vous ne trichez jamais.
C'est votre
choix d'avoir fait une chapelle. C'est pas une commande.
C'est pas une commande du tout. C'est moi qui ai voulu la faire.
Donc vous allez forcément dans une vérité. Pourquoi cette quête ?
Et pourquoi je me dis si il faut avouer les choses. Il y a encore Jean Rostand qui dit être clair, c'est avouer. Et je me suis dit, je suis chrétien, bon, catholique, mais pas pratiquant. Et toute la liturgie extraordinaire qui a fait des millions de chefs-d'œuvre gigantesques en art, et en littérature et en pensée, je ne la comprends pas. Je vous ai dit que j'étais un cancre. Je ne comprends pas le mystère de la réincarnation. Je ne comprends pas la côte d'Adam, etc. Qu'est-ce qui, en ce moment, me fait penser à Dieu? Eh bien, ce sont deux choses. Ce sont le mystère de la création de la cellule, la mitose, cette espèce d'enlacement de l'ADN, et simplement ce mystère extra incompréhensible, fou, de l'alliance de deux cellules et de cette mitose. Voilà, et de l'enlacement humain, des milliards d'individus. Ça, il y a la main de Dieu là-dedans.
Oui, cet enlacement, pour vous, c'est la procréation,
c'est la procréation, justement, de cellules dans la mitose qui en forment des milliards, et l'enlacement après, humain. D'un côté, j'appelle ça, d'un côté de cette chapelle, dans ce mur de 7 mètres 50, il y a la création et l'amour des corps. J'appelle ça la chapelle des corps, parce que c'est tout ce que je sais faire. Et dans cette chapelle, il y a, par exemple, une jeune femme qui accouche, qui est sur le dos et qui a quand même 5 mètres 50 de long. Et elle accouche d'un fœtus qui marche déjà vers son destin en haut. Bien, et ça s'appelle la lumière d'un côté. Et l'autre côté, ce sont les ténèbres. Parce que qu'est-ce que c'est que l'apocalypse? Qu'est-ce que c'est pour moi l'ignare? C'est quoi ces hommes avec des grandes fourches, qui se mangent les uns les autres, avec ces diables et tout ça? Ça ne me dit strictement rien. Mais l'apocalypse, pour moi, c'est quand même la fission de l'atome. C'est quand même la chose la plus effrayante. C'est ça, l'apocalypse.
C'est aussi la mort?
C'est aussi la mort.
Quelle est votre vision de la mort?
Eh bien, c'est justement ça. Alors, j'ai peint donc des grandes choses avec des gens qui se dévorent, mais également une chambre à bulles avec les atomes qui s'entrecroisent. Voilà. Et dans le fond de la chapelle, dans l'abside, il y a une énorme main. Et de cette main, qui est la main de Dieu, si vous voulez, il y a les courbes de l'ADN et un couple en anamorphose.
Où est cette chapelle?
C'est le grand snobisme. Elle est virtuelle. C'est-à-dire que moi,
vous êtes un homme de votre siècle, très moi.
Et puis il y a une chose qui est étrange. Vous allez me répondre à cette question. Tout à l'heure, nous avons parlé des pulsions sexuelle.
Oui, alors il y a une chose que j'ai lue de vous, vous dissociez complètement morale, érotisme, vous trouvez que ça n'a pas de sens de lier morale et érotisme.
La morale, je sais pas ce que c'est. Même chez les animaux, ils n'ont pas de morale. Moi, je ne sais pas du tout comment dessiner la morale. Et par exemple, je pensais à ça quand vous me posiez la question avec la chapelle. La plus grande chapelle de la chrétienté, c'était évidemment celle de Michel-Ange, avec une centaine de messieurs tout nus, absolument nus. Et la passion, pas secrète, mais la passion terrible de ce génie Michel-Ange, c'est les ventres des hommes qui sont une sensualité.
Vous pensez que lui aussi peignait par pulsion ?
Pour les ventres, oui. Et c'est phénoménal de voir que dans la chapelle, la première chapelle de la chrétienté, il y a autant de ventres qui ont une sexualité fantastique. Et dans sa sculpture, ne parlons pas même de l'esclave du Louvre, le ventre est à se pâmer.
Et chez vous ?
Alors, pour le sexe, il n'a pas peut-être été jusqu'au bout de ses pulsions, parce que quand même, c'était culotté.
C'est une question d'époque ?
Je sais pas. Mais même maintenant, ma chère Monelle, même maintenant...
Vous voulez dire que vous n'allez pas au bout de vos pulsions à vous?
Si, parce que je vais y aller là maintenant. Par exemple, de représenter un sexe féminin, il est au musée d'Orsay, la naissance du monde de Courbet, qui du reste n'est pas très bon tableau. on a osé, maintenant c'est un chef-d'œuvre, on a osé mettre un sexe féminin. Mais on n'a jamais, pour l'instant, il n'y en a pas en tout cas au Louvre.
Est-ce que c'est de l'art ou de la provocation?
On n'a pas osé faire un sexe masculin. Pourquoi?
Mais là, est-ce que c'est pas une provocation? Plus
Pourquoi
que l'amour de l'art.
C'est pas une provocation. Et la sculpture hindoue, et les menhirs de mon cher pays, de mon épouse, la Bretagne,
ah,
etc.
Les menhirs, pour vous, c'est important, personnellement?
Ben évidemment, j'ai connu mon épouse au pied d'un menhir. Quelle signification déjà! Et il était gravé, en plus, ce menhir. Et il était gravé par le canal de l'urètre.
Repartons avec Catherine pour une dernière pause avec les percussions de Tomoe Ryu Yukata Daiko et repartons au Japon. Nous reprenons le Carrefour des Arts et nous reprenons notre entretien avec Trémois. Trémois, vous êtes un homme de caractère.
Il est très mauvais par moment.
Au deux sens du mot, je voulais parler des caractères d'imprimerie.
Ah, c'est un sujet dramatique. Parce que l'imprimerie nationale, qui ont les plus beaux caractères du monde, et maintenant elle est supprimée, elle n'existe plus.
C'est un grand scandale, vous savez qu'on avait les plus grands idéogrammes chinois.
Oh.
On avait la plus grande collection, elle est partie.
Oui, vous savez, Louis XIV avait la délicatesse d'avoir créé des caractères fabuleux. Il avait demandé à des artistes, à des savants, d'aller dans le monde entier, enfin le monde que l'on connaissait, pour relever ces caractères et en faire des caractères de plomb qui ont été le fameux cabinet des Poinçons. C'était tellement important. Et cette délicatesse de Louis XIV, c'était principalement pour imprimer des lettres importantes de contrats qu'il avait avec l'étranger ou des réceptions des rois, des empereurs à Versailles. Et tout était dans la langue originelle. Et c'est quand même extraordinaire que ce caractère Garamond, vous prenez un plomb de Garamond, vous l'agrandissez, grand comme la tour Eiffel, il tient le coup. Mais essayez d'agrandir des caractères de maintenant.
Nous n'aurons plus jamais ni la régularité, ni même la lumière que donnait l'impression du plomb dans le papier.
Oh, extraordinaire.
Aujourd'hui, c'est fini, on n'a même pas de régularité entre l'espacement des lettres. Mais vous, vous y arrivez dans vos livres, je sais que vous choisissez chacun des caractères, chacune des polices, et que vous choisissez pour chacun de vos livres.
Évidemment.
Et que vous gravez vous-même tous vos livres.
Voilà, exactement.
Vous en avez fait 27, quels sont ceux qui vous marquent le plus ?
Celui que j'aurais voulu faire avec un savant qui était l'ami de Jean Rostand, qui a écrit un livre qui s'appelait « La vie des poux ». Et c'est un livre phénoménal au point de vue érotique. Dans des années.
Expliquez.
Vous savez qu'il y a un savant, un grand savant à Toulouse, qui a étudié les collymboles. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards, il y en a dans le petit jardin d'à côté. Ce sont des petits insectes qui sont horribles, mais il a donné le nom d'un collymbole avec mon nom, qui s'appelle le Tremoisea enigmatica. Et il a une puissance génésique extraordinaire. C'est drôle.
Vous l'avez dessiné, celui-là ?
Oh oui, mais il est très laid.
Oh. C'est une coquetterie encore de l'avoir fait très laid.
Moi, ça, je suis très fier. C'est une de mes fiertés.
Trémoi, vous avez été deux fois prix de Rome.
Non. Et j'ai fait deux fois le prix de Rome parce que c'était intéressant pendant l'occupation, on ne vous embêtait pas. Et le premier prix de Rome, c'est déjà un enlacement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le sujet était mythologique et j'ai peint un couple en peinture à l'huile. Et si vous voulez, j'ai eu un prix de Rome de peinture. Mais avant, j'avais fait le prix de Rome de gravure. Et le sujet, tenez-vous bien, c'était Pluton et Proserpine. Alors évidemment, le Pluton qui sortait des enfers pour séduire Madame Proserpine était en érection totale. Alors j'ai été chassé, presque de l'école des Beaux-Arts. L'érotisme, c'est une passion, c'est vraiment très ordinaire, très commun. Mais on m'a souvent appelé l'érotographe, c'est joli.
Oui, c'est joli, c'est joli. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est très troublé quand on regarde vos œuvres.
Non, vous savez, tout jeune, mettons vers 12-13 ans, il y avait des revues allemandes que je regardais sournoisement, en douce, et qui étaient des revues naturistes. Alors là, c'était en noir et blanc sur un papier glacé qui avait une odeur extraordinaire. Et ça y est, mes fantasmes.
Et comment avez-vous vécu la création sous l'occupation ?
Plutôt difficile.
Comment ça s'est passé pour vous ?
Il y a un scrutateur, ça s'appelait comme ça, qui était certainement nommé par les Allemands pour demander aux jeunes gens, pour les prendre carrément, pour le service travail obligatoire, STO. Et c'était l'angoisse parce qu'on ne savait pas où on allait. Alors il commence, il y avait une dizaine de jeunes gens. Alors vous, vous appelez. Bon, est-ce que vous avez votre certificat d'études ? Non. Donc vous n'avez pas votre bachot ? Non. Vous maniez les armes à feu ? Non. Vous avez un permis de conduire ? Non. Vous avez visité des pays étrangers ? Non. Vous ne connaissez aucune langue étrangère ? Non. Écoutez, foutez-le quand vous êtes nul. Et c'est comme ça que je ne suis pas parti.
Quelle chance.
Et c'est vrai.
Trémoi, merci beaucoup de cet entretien qui nous a enchantés. Et je n'aurai qu'un souhait, recommencer.